Bonjour à tous.
Le marché parisien est en baisse.
Effectivement, le CAC 40 recule en ce moment de 0,38%. Il est à 5599 points. Les investisseurs attendent prudemment le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié en début d'après-midi. Ces chiffres sont très très attendus car ceux du mois de mai s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions. Et pour le moment, eh bien, la tendance parisienne est aussi alourdie par une statistique allemande. En mai, les commandes à l'industrie en Allemagne ont diminué de 2,2%, soit une chute quand même de 8,6% sur un an. Les valeurs industrielles se retrouvent donc sous pression. C'est le cas notamment de Schneider Electric qui perd 4,12%, ArcelorMittal moins 3,27% ou encore Legrand moins 2,05%. Ce sont les trois plus fortes baisses du CAC 40 avec ST Microelectronics moins 1,71%. Le secteur des semi-conducteurs est affecté par Samsung qui prévoit une forte dégradation de ses résultats trimestriels. Alors parmi les hausses, il y en a quand même. Publicis par exemple gagne 1,43%. L'euro se négocie en ce moment à 1,1260. Quant au CAC 40, il recule de 0,36%. Il est à 5600 points tout rond maintenant. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter.
Merci beaucoup Antoine. Vous écoutez France Inter, il est 13h. Et le journal est présenté par Frédéric Mettezo. Bonjour.
Bonjour à tous. Ce n'est qu'1% des copies, mais cela concerne tout de même entre 35 000 et 40 000 candidats. 1% de copies du bac que les correcteurs n'ont pas remises, selon le ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Dans ce bras de fer avec certains enseignants, le ministre Blanquer se montre inflexible.
Au point de faire appel au contrôle continu quand il manque des notes, comme un avant-goût de la réforme qui se profile pour 2021.
Vous nous expliquerez ça tout à l'heure Fabien. Beaucoup de joie, un peu de tristesse et donc l'attente qui continue parfois. Nous serons dans un lycée parisien dans une minute. Et qui dit résultat du bac dit grandes vacances. Le week-end sera chargé dans les gares et sur les routes. Les trains pour la Bretagne sont remplis et danger testé pour vous. Nous irons dans les coulisses d'un péage autoroutier normand.
J'écrirai peut-être un livre sur toutes ces petites anecdotes que j'ai pu vivre en 37 ans. Des caravanes qui se décrochent par exemple. Arrivé au péage, je me rappelle la cliente a dit à son mari « Ah tiens, les gens à côté ils ont la même caravane que nous ». Sauf que c'était la leur qui les doublait et qui s'était décrochée.
La dégradation constante de l'état de droit au Venezuela, c'est un rapport de l'ONU qui le dit, rédigé par l'ancienne présidente chilienne, la socialiste Michelle Bachelet. L'invité de ce journal sera le politologue grec Georges Prevelakis. À 48 heures des élections législatives grecques, le premier ministre de gauche Alexis Tsipras pourrait être congédié. C'est à suivre, l'une des plus grandes banques du monde va mal, la Deutsche Bank va encore licencier des milliers de personnes. L'un des tennis semaines les plus colériques du moment, Nick Kyrgios. À Wimbledon, il a volontairement visé Rafael Nadal d'une balle rageuse, mais... Pourquoi je m'excuserai ? Shocking à Wimbledon. Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps, il fait très chaud.
Oui, 24 à 29 degrés près de la Manche, 30 à 35 ailleurs et même jusqu'à 38 sur le sud-ouest, vers la basse vallée du Rhône également. Beaucoup de soleil, une averse possible en montagne, parfois un coup de tonnerre sur le massif central, sur les Alpes. Et puis des averses orageuses s'approchent du sud de la Bretagne jusqu'aux Charentes.
France Inter.
Allez, encore un peu plus de stress cette année pour les élèves de terminale qui passent le bac. Est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que les profs auront corrigé mes copies ? Car pour dénoncer la réforme de Jean-Michel Blanquer, les réformes de Jean-Michel Blanquer, dont celle du bac, plusieurs professeurs ont décidé de ne pas noter les copies. Si c'est le cas, le ministre demande au jury d'appliquer la note du contrôle continu en attendant. Alors où en est-on ce matin ? Un nombre infime de copies n'aurait pas été noté si l'on en croit Jean-Marc Huard. Il est directeur général de l'enseignement scolaire, en quelque sorte le numéro 2 du ministère.
On a à peu près 1% de copies qui aujourd'hui n'ont pas été rendues par les correcteurs. On est autour de 35-40 000 candidats à peu près. Le résultat provisoire, il est, je dirais, quasi définitif. Les professeurs vont, nous l'espérons, nous les avons mis en demeure de le faire, rendre leur copie aujourd'hui. La copie sera corrigée. En règle générale, nous aurons une substitution de notes à la note provisoire qui permettra véritablement de confirmer pleinement les résultats des candidats.
Jean-Marc Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire ce matin sur France Info, concernant des résultats mis en ligne dès hier soir à Lille pendant quelques minutes, le ministère reconnaît une fuite. C'est accidentel, visiblement un problème technique. Il y a eu des tests informatiques hier soir, mais les ordinateurs du ministère n'étaient pas verrouillés. Plus grave, ces fuites de sujets de mathématiques en Ile-de-France. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire. 4 personnes vont être présenté à un juge d'instruction, deux candidats soupçonnés d'avoir acheté les 10 sujets et aussi un surveillant et sa compagne. Le surveillant aurait eu accès aux sujets et les aurait revendus aux lycéens. La parole aux candidats à présent. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous êtes en direct, Faustine, du lycée Colbert à Paris. Alors, Paris n'est pas la France, mais dans ce lycée du 10e arrondissement, près de la gare de l'Est, c'est un peu confus. Tout le monde n'a pas eu ses résultats.
Non, alors ce matin, malgré les grèves et les copies retenues, le même rituel s'est répété ici à l'ouverture des portes.
On y va ?
Les cris et les larmes de joie pour Louise.
Ce que j'espérais, du coup, j'avais peur d'avoir mention assez bien, mais j'ai bien, du coup, je suis très contente. Après, il faut que j'aille regarder ma feuille de résultats.
Mais c'est en récupérant les résultats que ça se complique. Sur 640 élèves ici, une centaine ont des notes dites provisoires issues de leur contrôle continu, ce que tente de leur expliquer une feuille A4 agrafée à leur relevé.
Qu'est-ce que c'est ? Un résultat provisoire. Ah oui, c'est parce que quand, si nos notes ont été retenues, on va avoir la moyenne de l'année qui est mise à la place de la note. Ça, c'est pas ça, c'est ça.
Un peu perdu, hein, Imad. Il obtient quand même quelques explications de la part de sa proviseure.
Si vous avez sur votre copie une vraie note qui est supérieure à celle-ci, on vous la met, vous pourrez éventuellement avoir la mention que vous espérez. Okay. Permet d'avoir ça.
Du coup, là, je suis à 10 points de la mention, donc il suffit que j'ai 12 et je n'ai pas grand-chose. Okay.
Compliqué, hein, ce bricolage que dénonce Géraldine, prof d'histoire géo ici au lycée Golbert et gréviste.
Pour les élèves aujourd'hui, une partie des résultats sont donc faussés. Il faut que ces élèves vérifient bien, effectivement, s'ils ont bien eu toutes leurs notes, qu'ils demandent à voir leur copie et qu'ils fassent des recours.
Et ce qu'ils souhaitent, effectivement, ont 2 mois pour le faire devant le tribunal administratif.
Faustine Calmel avec Eric Audra pour la liaison satellite. Merci à tous les deux en direct du lycée Colbert à Paris. Vous en parliez, les recours possibles pour les 1% de bacheliers qui auraient des résultats provisoires. Peuvent-ils être notés sur contrôle continu? Les présidents de jury peuvent-ils décider tout seuls? Quelles sont les possibilités de recours? Réponse de Louis Le Foyer de Costil. Il est avocat spécialisé en droit de l'éducation.
Alors oui, il pourrait y avoir une atteinte au principe d'égalité entre les étudiants. Le principe d'égalité, c'est traiter pareil des personnes dans une situation identique. Cependant, le Conseil d'État admet des entorses au principe d'égalité dès lors qu'il y a un motif d'intérêt général suffisant. Donc là, en l'occurrence, pouvoir délivrer les résultats à tout le monde en temps utile.
Certains professeurs, du coup, refusent de donner ces notes de contrôle continu. Est-ce que des présidents de jury peuvent outrepasser la volonté des professeurs ?
Non. Le président du jury n'est pas le jury, donc c'est le jury lui-même qui est souverain et pourrait aller contre la décision du président du jury. On a 2 mois à compter de la publication des résultats pour faire un recours, mais pour que ça soit opportun et il faut le faire beaucoup plus rapidement. Il y a des procédures d'urgence du juge administratif qui permettent d'obtenir, si l'urgence est reconnue, une décision dans un délai d'environ 1 mois.
L'avocat Louis Le Foyer de Costil avec Corinne Audouin. Et pour la suite, ceux qui n'ont pas eu de résultat aujourd'hui auront-ils des problèmes pour s'inscrire dans le supérieur via la plateforme Parcoursup? Il n'y aura aucun impact, promet la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle l'a dit à Ali Badou dans le 7-9.
Alors en fait, ça ne change rien à la plateforme puisque les résultats ont commencé à arriver aux différents bacheliers à partir du 15 mai, donc bien avant le baccalauréat. On a des jeunes qui passent leur bac dans des lycées français à l'étranger où les résultats sont décalés et arrivent d'autres jours. Donc en fait, le jour où le résultat définitif est connu n'a aucun impact sur le fonctionnement de la plateforme.
Alors on l'a vu, le ministère de l'Éducation nationale aura tout fait pour avoir des résultats définitifs, quitte à faire appel aux notes du contrôle continu. Plusieurs professeurs grévistes parlent d'un passage en force, mais Fabien Cazot, Jean-Michel Blanquer veut en profiter. Il est persuadé que cette crise va justifier sa future réforme.
Absolument, et c'est pour le moins habile. Les enseignants se mobilisent contre sa réforme du lycée et du bac qui propose d'instaurer plus de contrôle continu à la place des traditionnelles épreuves. Et bien justement, voilà qu'on fait appel au contrôle continu pour faire atterrir ce bac 2019 qui Entre les fuites de sujets, la désorganisation des jurys et les annonces prématurées même de résultats, n'aura pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, de tout repos. Cela pourrait d'ailleurs devenir un argument politique qui plaide en faveur d'une réforme en profondeur du bac. Le ministère de l'Éducation nationale aura beau jeu de dire que passer à plus de contrôle continu, cela permettra en quelque sorte d'automatiser l'examen, de le rendre moins dépendant des bugs et des grèves qui peuvent affecter le bon déroulement des épreuves. Les syndicats auront beau dénoncer un passage en force, cette édition 2019 du baccalauréat fera date, marquant sans doute le véritable coup d'envoi de la réforme du lycée.
Fabien Cazot, merci.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Le dégagisme va-t-il encore sévir dans un pays de l'Union européenne ? Élections législatives en Grèce dimanche. D'après les sondages et d'après les journalistes là-bas, le leader de gauche Alexis Tsipras va être battu par la droite. Une certitude, Eleni Katsouli, directrice du Centre d'entraide et de solidarité de la mairie d'Athènes, ne votera pas pour l'actuel Premier ministre. Elle a été très déçue par Tsipras.
Le coût de la vie reste très élevé. Le gouvernement nous dit que le chômage a baissé. Mais comment le chômage a-t-il baissé ? Avec des salaires de 300 ou 400 euros ? Moi, je pense que la pauvreté ne se résorbe pas. Elle s'enracine et on est en train de s'y habituer. C'est la normalisation de la pauvreté. On prend tous des cachets. Tous, tout le monde, c'est la vérité. À part l'élite, mais tous les autres souffrent beaucoup. On a été très touchés par la crise, surtout la classe moyenne.
Reportage à Athènes avec la directrice du Centre d'entraide et de solidarité de la mairie. Reportage signé Marie-Pierre Véraud, notre envoyée spéciale. Bonjour Georges Prévelakis.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de politique grecque. Merci d'être en direct sur France Inter. Je le précise, vous êtes en route pour aller voter chez vous en Grèce. Vous êtes quelque part entre la Serbie et la République de Macédoine du Nord. Monsieur Prévelakis, aux dernières élections européennes et locales, Syriza, donc le mouvement de gauche d'Alexis Tsipras, Syriza a été largement distancé par la droite. Les sondages prédisent la défaite de Tsipras. Vous pensez que le match électoral est vraiment plié en Grèce ?
Écoutez, dans la mesure où on peut prévoir les élections, oui, enfin, toutes les indications, tous les sondages donnent une victoire assez impressionnante de la nouvelle démocratie qui doit lui assurer la majorité absolue, donc la possibilité de gouverner le pays pendant 4 ans.
La nouvelle démocratie, hein, c'est la droite conservatrice. Georges Prévelakis, comment expliquer ce recul de Syriza ? La vie reste très difficile en Grèce, mais quand même, le chômage a reculé, la croissance est repartie. Ça n'a pas suffi à rassurer les Grecs ?
Écoutez, les données économiques ne sont pas bonnes. Hein. Il y a une image en Europe qui ne correspond pas à l'expérience de Grecs. Mais je pense que l'essentiel, c'est de comprendre que Alexis Tsipras a pu gagner le pouvoir il y a 4 ans en donnant des promesses. La promesse d'un côté d'un retour à la prospérité d'avant la crise, de rétablir une certaine fierté nationale, et ensuite parce que il a présenté un visage jeune, il pouvait prétendre de ne pas avoir de responsabilité pour la situation de la crise et rejeter toute la responsabilité aux autres partis. Au bout de 4 ans, c'est sa situation. D'un côté, toutes les promesses, aucune des promesses n'a pu être tenue. C'est-à-dire les Grecs ont vu leur niveau de vie stagner ou même reculer. Les classes moyennes ont été écrasées par l'impôt.
Oui, on parle beaucoup de la colère des classes moyennes.
Oui, évidemment, parce que l'imposition est extrêmement lourde, ce qui pousse une grande partie de entreprises, enfin de petits entrepreneurs, etc., en fait, soit à fermer boutique, soit à passer à l'économie informelle, ce qui est un cercle vicieux parce que il y a de moins en moins de gens qui payent de plus en plus d'impôts et ça conduit bien sûr au rétrécissement de l'économie. Ensuite, comme je disais, en ce qui concerne la fierté nationale, la manière dont Tsipras a traité cette question de la Macédoine du Nord a aussi était perçu comme une humiliation nationale, comme quelque chose qui a été imposé de l'extérieur.
Ça veut dire qu'il faut rappeler que le gouvernement grec reconnaît l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme État indépendant, avec cette appellation de Macédoine du Nord, et ça ne plaît pas à une grande partie des Grecs pour qui la Macédoine est grecque. C'est la patrie d'Alexandre le Grand.
Oui, c'est, on n'a pas le temps de discuter une question qui est assez complexe, n'est-ce pas? Mais ce qui, je pense, est très important, c'est la perception des Grecs que cet accord a été imposé par l'Europe, par les États-Unis, et que le gouvernement, à la place de, si vous voulez, de négocier ou de contester, a accepté ce qui a été un diktat de l'extérieur, indépendamment si c'est une bonne ou mauvaise solution, hein, mais ça a paru comme un diktat pour un peuple qui a cette sensibilité depuis sa création, la création de l'État grec, d'être indépendant d'une sorte de tutelle de puissance, c'est un point sensible. Mmh. Ensuite, l'autre aspect qui, je pense, est très important pour comprendre cette situation, c'est l'image des marques elles-mêmes de Tsipras, parce que Tsipras et les Syriza, eh bien, n'ont pas pu résister, si vous voulez, aux attraits du pouvoir. Donc, ils ont de plus en plus eu un comportement extrêmement arrogant. Ils ont perdu le contact avec la réalité. Et finalement, ils présentent exactement les aspects d'un système politique qu'ils étaient censés combattre et dépasser, proposer autre chose.
Mais précisément...
Ils se présentent en ce moment, de ce point de vue, comme pire que les anciens, le système politique ancien.
Oui, mais précisément, si Tsipras est battu, ce sera par la droite, la nouvelle démocratie, et cette droite, elle est conduite par Kyriakos Mitsotakis, c'est le fils d'un ancien Premier ministre, c'est le frère d'une ancienne ministre, et son neveu est maire d'Athènes. Là encore, on revient au vieux système grec.
Écoutez, on peut voir les choses comme ça, mais en même temps, il faut se rendre compte que Mitsotakis est une personnalité tout à fait extraordinaire qui a réussi en 3 ans de faire le ménage en ce qui concerne son parti, qui était bien sûr tout à fait usé par le passé, et qui, sans Mitsotakis, il aurait eu les résultats de socialistes, de PASOK, hein, qui sont complètement marginalisés. Ouais. Donc il a réussi d'un côté à faire le ménage et à le transformer en une machine politique extrêmement efficace, et deuxièmement, de faire une véritable ouverture vers le centre. Donc ce n'est plus un parti de, si vous voulez, de droite conservatrice, comme vous avez mentionné, mais c'est plutôt
un centre droit,
avec l'apport de beaucoup de cadres issus de la gauche. Donc c'est qui est important, c'est la personnalité de Mitsotakis. D'ailleurs, de plus en plus, pour les Grecs, il ne s'agit pas de voter pour la nouvelle démocratie, il s'agit de voter pour Mitsotakis, que d'ailleurs, en Grèce, on ne se réfère pas à lui en tant que Mitsotakis, mais en tant que Kyriakos.
Oui, c'est son prénom.
Donc,
oui.
Vraiment la personnalité.
Il a su se faire un prénom. Merci beaucoup, Georges Prevelakis, spécialiste de politique grecque. Merci d'avoir été en direct sur France Inter, sur les routes d'Europe, justement, pour vous rendre en Grèce pour voter, puisque les élections législatives ont lieu ce dimanche. Bonne journée. La Grèce va un peu mieux, en tout cas va un peu moins mal, alors qu'une grande banque allemande est au plus mal, Deutsche Bank, un mastodonte du système financier mondial, va annoncer un nouveau plan de restructuration. Il y en a pour 3 à 5 milliards d'euros. À Berlin, Ludovic Piétenu.
La Deutsche Bank s'était déjà séparée de 7000 salariés l'an dernier. Elle emploie aujourd'hui encore 91 500 personnes à travers le monde et pourrait annoncer de 15 à 20 000 suppressions d'emplois. Des licenciements massifs qui s'étendraient sur plus d'un an et hormis l'Allemagne plutôt épargnée qui concernerait tous les pays et toutes les activités de la banque. Mais surtout, la banque de financement et d'investissement, celle qui gère les activités de marché, les grandes entreprises, les fusions, les acquisitions, ce sont ses salariés qui paieraient le plus lourd tribut. Il ils sont surtout basés aux États-Unis, car c'est outre-Atlantique que la banque allemande perd des parts de marché face à ses concurrentes américaines de Wall Street. C'est aussi cette activité très risquée qui l'a mise dans le rouge depuis la crise financière de 2007-2008. La première banque allemande, vieille de près de 150 ans, doit, pour se sauver, revenir à des activités plus traditionnelles ou plus sûres, comme la gestion des grandes fortunes privées.
Petite forme pour l'industrie allemande, les commandes ont baissé beaucoup plus que prévu en mai, moins 2,2%, et ça ne va pas s'améliorer, estime le gouvernement. Les grandes industries en Allemagne vont sans doute placer des milliers de salariés à temps partiel pour éviter des licenciements. Une bonne nouvelle pour l'industrie britannique pénalisée par le Brexit. Jaguar va se lancer dans la voiture électrique, ce qui va permettre de pérenniser des centaines d'emplois en Angleterre. Il était très attendu au Venezuela. Le rapport de l'ONU sur la situation dans ce pays est public depuis ce matin. Selon la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, le gouvernement de Nicolas Maduro est responsable de l'essentiel des exactions commises ces dernières années. À Genève, Jérémy Lanche.
Toutes les victimes interrogées par les enquêteurs évoquent la même scène. L'arrivée chez elles des forces spéciales dans des gros pick-up noirs, le visage masqué, les armes à la main et l'exécution en quelques minutes des hommes, pour la plupart des jeunes. En 2018, 5287 personnes ont été tuées pour résistance à l'autorité au cours de ces opérations de sécurité, selon les chiffres même de Caracas. Tous n'étaient pas des opposants à Nicolas Maduro, mais la pratique illustre, selon la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet, la dérive du régime vénézuélien.
Il y a une érosion des institutions et de l'état de droit au Venezuela. L'exercice de la liberté d'opinion, d'expression, tout rassemblement, toute participation à la vie publique peut entraîner une répression. Notre rapport montre que ceux qui s'opposent au pouvoir ou ceux qui sont perçus comme des contestataires ou des défenseurs des droits de l'homme sont des cibles. Ils s'exposent aux menaces, aux détentions arbitraires, aux tortures, aux agressions sexuelles, aux disparitions forcées et aux meurtres.
Des accusations graves, rejetées en bloc par Caracas, le représentant du Venezuela là au Conseil des droits de l'homme demande que le rapport soit modifié car il ne reflète pas, dit-il, la réalité. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Des élus brésiliens ont-ils acheté les JO de Rio en 2016? L'ancien gouverneur de Rio de Janeiro est en prison depuis 2 ans pour des soupçons de corruption et selon la presse brésilienne, il aurait avoué avoir versé 2 millions de dollars à des membres du CIO pour acheter leur vote. Le champion de saut à la perche Sergei Bubka et le nageur Alexander Popov. Il est 13h20, la remise en liberté de la passagère d'une voiture qui avait tué un petit garçon de 9 ans à Lorient le mois dernier. Le conducteur meurtrier avait pris la fuite, elle l'avait suivi avant de se rendre à la police. Elle reste mise en examen et sous contrôle judiciaire mais nie toute responsabilité. Elle accuse même son compagnon de l'avoir harcelé. L'avocat de la famille de la jeune victime se dit très surpris par cette remise en liberté. Pas assez de monde au guichet de la SNCF, on vous en parlait ce matin à 8h sur France Inter. Plusieurs syndicats s'en inquiétaient. Eh bien, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce des renforts. Elle reconnaît que l'affluence a été sous-estimée. Il faut parfois attendre 2 heures au guichet des gares les plus fréquentées. Dans les toilettes de la Gare du Nord, la Gare de Lyon et Austerlitz à Paris, il n'est même plus question de temps d'attente. Il faut carrément aller ailleurs. Plusieurs employés des toilettes publiques se sont mis en grève à Paris. Ces femmes, pour la plupart, ont cessé le travail il y a 8 jours, car leur employeur de Richebourg souhaitent les muter contre leur gré. En revanche, les trains circulent en ce jour de grand départ. À la gare Montparnasse, par exemple, les trains pour la Bretagne sont déjà remplis. Reportage de Bastien Munch.
Ce n'est pas encore l'affluence des grands départs ce matin. On croise plutôt des jeunes dans la gare Montparnasse. Garance, par exemple, elle attend ses copines pour partir à Lannion. Elles viennent toutes de finir leur année de première et donc le bac de français. Alors ces vacances, elles les attendent depuis longtemps.
C'était vraiment notre motivation à toutes. Bah, on se disait qu'une fois qu'on avait fini, c'est bon, c'était les vacances, on allait enfin partir. Franchement, on pensait à ça, même quand on finissait les épreuves, on en parlait ensemble, etc. Donc ouais, c'était vraiment motivant. On verra le résultat, quoi. On sera toutes contentes ou toutes tristes ensemble. Et quelque part, vaut mieux faire ça qu'être chacune chez soi avec nos parents. Donc là, on sera au moins ensemble et on sera à distance si jamais on a des mauvaises notes. Nos parents, ils auront le temps de digérer ça loin.
Alors beaucoup de départs vers la Bretagne ce matin, vers Nantes, Quimper ou encore Rennes. Sophie, par exemple, part en Bretagne. Elle s'est pris 4 jours de congé sur un coup de tête hier soir pour échapper à l'effervescence parisienne.
Ça vide la tête, déjà. Et on peut repartir du bon pied, pouvoir reprendre le travail avec les transports en commun, avec la chaleur et tous les petits aléas de la vie parisienne.
Voilà, et tout le week-end, plus de 260 000 voyageurs sont attendus en gare Montparnasse.
On attend beaucoup de monde aussi sur les routes. Ce sera chargé dès cet après-midi en Ile-de-France et demain partout ailleurs pour une journée classée orange. Quittez les grandes villes avant 8 heures du matin, si possible. Et justement, dans J'ai testé pour vous, comme tous les mercredis à 13 heures sur France Inter, nous nous rendons dans les coulisses d'un péage à Eudebouville sur l'A13 en Normandie. Même si les machines ont remplacé les guichetiers aux bornes de paiement, une trentaine de personnes y travaillent toute l'année. Reportage dans la ruche du péage, Marius Delaunay.
On va sur les aires de péage. Là, sur moi, j'ai mon gilet jaune et les chaussures de sécurité. Aujourd'hui, on fait de l'assistance directement sur le péage, c'est-à-dire qu'on intervient à travers les cabines. Et pour m'accompagner, en plus, je suis entre de bonnes mains, je suis avec Thierry, c'est le chef du péage. Ça fait combien de temps, Thierry, que vous êtes sur les péages de France ?
Ça fait 37 ans. J'ai passé toute ma carrière professionnelle sur les autoroutes.
Donc, quelques mots sur la sécurité avant de s'engager sur les voies, parce qu'on est en trafic permanent. Donc, il faut être très prudent, on va vous accompagner. Pour traverser les voies, on marque toujours un temps d'arrêt. Toujours sur le passage piéton.
Une fois passé les passages piétons, on rentre dans la cabine, celle où se fait le paiement en fait, pour toutes les voitures qui passent sur les péages. Il y a plein de circuits électroniques en fait, c'est tout un dédale de circuits électroniques.
Très sophistiqué, très étudié. Où,
ah, voilà. ça c'est le bruit d'une pièce qui tombe.
Voilà, c'est un client qui est en train de payer en espèces. Donc une partie va dans les recettes et une partie va en attente pour le client suivant.
Et une fois qu'on a passé toutes les petites machines pour le paiement, on arrive dans une petite pièce avec un écran de contrôle. On voit toutes les bornes du péage où on peut payer par carte, par espèce. D'ici, on peut régler toutes les anomalies qui sont sur le péage. Par exemple, des gens qui n'arrivent pas à passer, ou encore qui sont bloqués, ou qui n'ont peut-être pas la monnaie suffisante.
Voilà, on a 24 couloirs sur Eudebouville avec des voies réversibles. Donc on sait si les voies sont ouvertes, si elles sont fermées. On est tous équipés de téléphone. Si un client appelle, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut intervenir, on peut tout faire d'ici.
Sur les péages, vous y êtes tous les jours, vous devez quand même récupérer des objets assez insolites quand même de temps en temps.
Je dis qu'à ma retraite, j'écrirai peut-être un livre sur toutes ces petites anecdotes que j'ai pu vivre en 37 ans. Des caravanes qui se décrochent par exemple, j'ai vu ça, des gens qui partaient en vacances, mal accrochés à la caravane. Arrivé au péage, la caravane s'est décrochée et je me rappelle, la cliente a dit à son mari « Ah tiens, les gens à côté, ils ont la même caravane que nous. » Sauf que c'était la leur qui les doublait et qui s'était décrochée.
Et le contact avec les clients, vu qu'il n'y a plus de péagistes aujourd'hui, ça vous manque pas un peu des fois ?
Oui, ça manque un petit peu, ouais. La nostalgie est là. J'ai passé des bons moments en cabine avec des clients super sympas. Voilà, malgré le trafic. On a passé des bons moments.
Allez, on sort de la cabine. On peut enlever nos chaussures de sécurité, notre gilet jaune. On reprend la voiture et cette fois-ci, on passe le péage.
Marius Delaunay pour J'ai testé pour vous, comme tous les vendredis sur France Inter, bien évidemment. C'est bientôt le week-end. Allez, un teigneux sur le gazon de Wimbledon à présent. Il est australien, il s'appelle Nick Kyrgios et il a été battu hier en 4-7 par Rafael Nadal. Le match a été haletant, accroché, tendu. L'Australien, qui a réussi un ace s'en servant à la cuillère, s'est surtout fait remarquer pour un très vilain geste. Bonjour Jean-Pierre Blimaud.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes à Wimbledon pour France Inter. Jean-Pierre, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé hier.
Alors ce devait être une opposition de style entre Nadal, le travailleur, le sérieux, et Kyrgios, le fantasque, hein, qui ne s'entraîne pas autant que les autres, qui boit de la bière la veille du match dans un pub des alentours et parfois se montre irrespectueux. Très attendu en raison des rapports conflictuels, hein, entre les deux hommes, le match s'est déroulé dans une ambiance explosive, mais là on a franchi un cap, hein, quand Kyrgios, vous l'avez dit, envoie une balle très violente et incontrôlée pile sur Nadal qui est monté au filet. En conférence de presse, l'Australien a reconnu avoir clairement visé l'Espagnol, mais il a tout simplement refusé de s'excuser et pire, il a tout mélangé. Écoutez-le. Pourquoi je m'excuserais ? Combien a-t-il gagné de grands chelems ? Combien d'argent a-t-il sur son compte ? Je pense qu'il peut prendre une balle dans la poitrine, mec. Je ne vais pas m'excuser auprès de lui. Alors voilà, quand il frappe la balle comme ça, c'est dangereux, rétorque Rafael Nadal. Pas que pour moi, pour un juge de ligne, pour la foule. Le double vainqueur de Wimbledon a fini par s'imposer en 4 manches avec beaucoup de sang-froid. Il en fallait, hein, parce que c'est vrai que Kyrgios, il use également de ficelles habituelles, comme le fait d'énerver son adversaire, de faire tourner sa raquette à la manière d'un cow-boy et son revolver. Provocateur aussi quand il sert à la cuillère avec un ace à la clé. Nadal, lui, continue sa route et va retrouver le français Joe Wilfried Tsonga demain au troisième tour.
Ouais, charmant garçon. Jean-Pierre, les matchs du jour à surveiller à Wimbledon.
Alors Benoît Paire est actuellement en train de jouer face au Tchèque Jiří Veselý. Paire qui est mené 1-7-0. 6 jeux partout dans la deuxième manche. Gros duel entre serveurs. Et puis tout à l'heure, il y aura également Hugo Humbert qui jouera contre Félix Auger-Aliassime, un jeune Canadien de 18 ans qui est déjà 21e mondial. La question du jour, Paire ou Humbert ou les deux en 8e, réponse ce soir.
Paire ou Humbert, c'était Jean-Pierre Blimeau en direct de Wimbledon pour France Inter. Le temps.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Élodie Calac, c'est la journée la plus chaude de la semaine.
Toujours beaucoup de soleil, deux bémols. En montagne, quelques nuages se forment. Une averse orageuse est possible sous les nuages les plus menaçants. Et puis près de l'océan, des nuages d'altitude peuvent voiler le ciel. Quelques averses orageuses sont attendues entre le sud de la Bretagne et les Charentes. Ce temps progressera ce soir vers le centre du pays avec un risque d'orage localement fort sur le Poitou. Les thermomètres s'envolent entre 24 et 38 degrés, 25 à Cabourg, 27 à Lille et à Brest, 31 degrés à Paris, Strasbourg, Cannes, 33 à La Rochelle et Besançon, 35 degrés à Lyon, 36 à Limoges et à Nîmes, 37 degrés du côté d'Agen, 38 à Montauban. Le week-end s'annonce plus chaotique avec des orages parfois forts demain entre les Pays de la Loire, les Charentes, l'Alsace, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Du soleil de part et d'autre. Dimanche, le risque d'orage se décalera vers l'est. Les nuages auront l'avantage au nord de la Loire et au sud de la Garonne. Et les températures baisseront par le nord, mais il fera encore très chaud sur le sud-est.